Vous écoutez IDFM, il est midi.
VO2 Max. VO2 Max, l'émission des sports qui respire.
Bonjour et bienvenue sur IDFM dans VO2 Max, votre rendez-vous dédié au sport nature les premiers dimanches de chaque mois de midi à 13h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio une arbitre internationale licenciée au Versailles Triathlon. Bonjour Auriane Lacampagne.
Bonjour.
Bonjour Auriane.
Auriane aura la chance notamment d'officier comme arbitre lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Nous évoquerons sa fonction d'arbitre, mais pas seulement. On parlera aussi de triathlon, de ta passion et de paratriathlon. Et bien sûr, dans cette émission, Jean-Marc nous présentera sa rubrique avec les résultats des dernières courses de la région. Et en l'absence de Mathilde, c'est moi qui m'occuperai de la rubrique Agenda avec les différentes compétitions à venir dans les prochaines semaines.
VO2 Max,
l'émission des sports qui respire.
Bonjour Auriane, on est heureux de te recevoir en studio. Donc on le disait dans la présentation, tu es arbitre international mais de triathlon, mais on va pas parler forcément que de ça. Et on voulait, avant d'évoquer ton rôle d'arbitre, que tu nous expliques un petit peu comment tu es venu à la pratique du triathlon.
Je suis venue à la pratique du triathlon par le sport scolaire, en fait, par l'UNSS les mercredis après-midi, parce que dans mon collège et dans mon lycée, il y avait des professeurs de PS hyper impliqués dans le triathlon, les disciplines enchaînées, ils appellent ça à l'UNSS, et donc du coup, j'ai commencé à pratiquer comme ça.
Et t'étais où exactement alors ?
Alors dans le 64.
Vers Biarritz par là, c'est ça ?
Plus dans les terres, à Nailles, donc entre Pau et Lourdes.
Entre Pau et Lourdes, d'accord. Ouais. Bon, un bel endroit en tout cas pour débuter, quoi.
Voilà. Exactement.
Et qu'est-ce que t'appréciais dans ce sport alors, tes premiers contacts avec le triathlon ?
J'appréciais le fait que ça se fasse en pleine nature, l'ambiance aussi. Parce que je trouvais que l'ambiance était amicale, toujours de bonne humeur. Il y avait un esprit de compétition, mais même si c'est pas un esprit d'équipe, c'était vraiment un moment à partager. Et puis c'est l'opportunité aussi qui a fait ça, c'est que on nous le proposait au collège et que moi j'avais envie de faire du sport et que pas forcément un sport d'équipe et donc ça tombait bien, un sport d'endurance
et
complet.
Et puis donc faire du triathlon dans le secteur, ça va pas être simple parce que du côté de Lourdes, je crois que ça monte pas mal quand même. Hein.
Ça monte.
Hein, n'est-ce pas,
c'est
hein,
vrai, c'est
n'est-ce
vrai.
Pas,
hein. Oui.
Oui, si on continue, c'est qu'on aime bien alors parce qu'on se tape des montées à vélo et voilà.
Ah, il y a le Gave aussi, bon, mais on peut nager un peu là. Mais
dans le Gave, ouais, bof.
Un peu trop de courant quand même. Et tu as fait d'autres sports ? Pratiqué d'autres sports ? C'est déjà assez complet, vélo, natation, la course à pied.
J'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la natation, de la danse. Puis après, plus tard, j'ai fait un peu d'escalade aussi.
Et le triathlon a repris le dessus ?
Le triathlon est toujours resté.
T'en fais encore un petit peu, ça t'aide ? Tu as le temps de...
J'en fais moins. Depuis quelques années, voire...
C'est plus sur les plus dans un sport loisir, comme ça, bon, tu vas nager un peu.
On a toujours été plutôt dans un sport loisir, même si je faisais des compétitions, mais jamais avec un objectif de performer, on va dire. Donc, on est toujours resté plutôt dans un objectif loisir pour moi.
Voilà. Oui, c'est bien. c'est sympa. Mais du coup, t'as fait quelques épreuves. C'est quoi ton plus beau souvenir d'épreuve de triathlon ? J'imagine dans ce coin-là, alors en fait, un peu plus dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors.
Parce que quand je faisais de la compète, c'était surtout quand j'habitais là-bas. Mais avec le club, on faisait des grosses sorties. Donc mon club à l'époque, c'était la Tribu 64. On faisait des grosses sorties club à Mimizan.
C'est plat.
C'est dans les Landes.
C'est plat, voilà. Et donc, comme il y avait aussi une bonne ambiance, en fait, ça me permettait aussi d'officier sur le même week-end et de courir. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé les fois où je suis allée.
Allez là-bas, donc c'est les plus beaux souvenirs, c'est là-bas. C'est pour le cadre ou c'est l'esprit de compétition qui était tranquille justement sur ces premières épreuves ?
C'est plus l'esprit de club, de déplacement de club qui était sympa, puis la compétition était chouette. Et puis après, il y avait les épreuves qui se déroulaient à Baudrex, organisées par mon club, qui ont toujours été chouettes parce que là, pour le coup, l'environnement est aussi super chouette parce que du coup, c'est dans un environnement montagneux, c'est joli.
Alors là-bas, du côté de Mimizan, vous étiez dans la mer, au niveau de la natation ?
Non, c'était non, a... un.
Ouf, ça fait un des fameux lacs. Ouais,
c'était un lac. Oui, non, non, c'était un lac avec une base de loisirs, un camping.
D'accord.
C'était un lac.
Ok, ça se fait pas en eau libre. Enfin, je pose peut-être une question de novice. Bon, le triathlon, oui, se fait pas en eau dans l'océan.
Si, il peut. Peu importe, même en rivière.
D'accord.
En lac, à Paris, ils font ça dans des piscines aussi. Hein.
Ou dans la Seine, bientôt.
Voilà. Dans la Seine. Mais oui, en eau libre, la majorité du temps, mais ça peut aussi être en piscine.
D'accord.
Donc en eau libre, mer, océan, rivière.
Et l'épreuve de tri que tu aurais aimé faire? Ou qui tu as rêvé encore?
Peut-être, là, voilà,
tu
feras,
peut-être, bien sûr.
Je vais faire Besançon en juin pour la première fois sur un S, alors que j'y vais chaque année pour arbitrer, donc ça me donnait envie. Et c'est aussi un cadre qui est sympa.
On rappelle le format S pour les auditeurs.
C'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied à peu près.
Rapide donc.
Ouais. Donc c'est un format court mais qui est intense. Ouais. Donc à peu près entre une heure et demie et quelques d'efforts.
Reprise quoi, d'accord. Ouais. Ouais. Et c'est savoir manier en fait les trois
disciplines
musculaires, voilà.
Et donc à Besançon, et ce sera quand, tu disais, au mois de juin, c'est ça?
Oui, mi-juin.
Mi-juin. Mm-hmm. Voilà, très bientôt. Ok.
Ouais, très bientôt.
Bon, super. On va profiter. Bon, on va faire une première petite pause avec un morceau que tu nous as choisi. Voilà, c'est une des traditions dans l'émission. Donc là, le premier morceau, c'est un morceau de Coldplay, Princess of China avec Rihanna. Pourquoi ce morceau, Ryan, alors?
Ce morceau parce qu'il faisait partie de la playlist qu'un de mes professeurs de PS au collège mettait à chaque fois qu'il était speaker sur une épreuve de discipline enchaînée les mercredis après-midi, donc je l'ai entendu un paquet de fois et à chaque fois que je l'entends ça me rappelle cette époque
Ce prof qui était sympa
et ce prof avec qui je suis toujours en contact qui est devenu un ami maintenant, donc c'est Emilio Laguna, c'est vraiment quelqu'un qui m'a permis de rentrer dans le monde du triathlon aussi.
Bon super, et écoute, on écoute Coldplay. Once upon a time, somebody ran away, singing as fast as I can. I got to go, I got to go. Once upon a time, we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart.
VO2 Max, l'émission des sports qui respire.
Vous êtes sur IDFM dans votre émission VO2 Max et nous sommes toujours en compagnie d'Oriane Lacampagne, arbitre international de triathlon. Mais avant de poursuivre nos échanges avec Oriane, je laisse la place à Jean-Marc pour sa rubrique résultats, pardon.
Merci Nico. Oui, donc pas mal de résultats au mois de mai. La course du Muguet à Cergy, alors il était quand même 673, c'est bien, ça revient sur les courses. Il y avait 10 km, donc victoire de Ledine Geoffroy de Vernon en 31-36, et chez les filles de Chandon-Louise, de Avon-Atelier, elle rentre en 39-43, c'est pas mal, sur un 10 000. Sur le 5 km, Combes Henri, pardon, qui gagne. Et chez les filles, c'est Pique Charlotte de la CPA. Les Folies de Nîmes. Alors, le parcours a un petit peu changé. C'est bien, on se balade bien un petit peu dans le parc. C'est assez sympa. Bon, ça monte toujours autant.
C'est dans le parc de Rouchy, là.
Tout à fait, ouais. C'est vraiment super sympa. Alors, le 5 km, c'est Kadari Lofty qui a gagné. Il a même aussi gagné le 10, hein. Lui, il a commencé le 5. Il a gagné. Il a manché le, il a mis un autre maillot et il est parti. Gagné le 10. Chez les filles, donc, sur le 5, c'est Gaudin, Marcier de Lyon qui gagne, et sur le 10, Gilles Sandelphine de Triaction. Il y avait le trail des balcons de la Seine à La Roche-Guyon, le 14 km, Boabila Zakaria de Houille qui gagne, et chez les filles Fossa Mathilde d'Aubergenville. Sur le 28, Thomas Rollet, et chez les filles Jean-Mère Oriane de Vauréal. Les Foulées d'Aubonne, alors c'est un circuit urbain, c'est sympa, il y a beaucoup de monde. Et en plus, vous avez de soirée, très belles photos à voir sur la page Facebook de Bernard Béthune, il fait beaucoup de photos. Si vous avez l'occasion, allez sur sa page, vous allez voir, il y a plein de photos. Sur le 5 km, c'est Palazzi François qui l'emporte. Lui, il avait déjà gagné à Saint-Leu, hein, sur le 5 km. Et chez les filles, c'est Ben Salem Kaina. Sur le 10, Platzek Thibault. Et chez les filles, Gasto Émilie. Alors, il y avait les interclubs élites, qui sont le championnat de France, un des clubs. Victoire du CA Montreuil, belle deuxième place de Franconville. Et puis une super perf de troisième position, le ACPA. Vraiment, là, ils ont fait un beau truc. Le triathlon de la Reine à Versailles. Je voulais quand même citer la belle troisième place de Mathilde, qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, on l'a
troisième place en cadette. Hein,
voilà, mais pas mal quand même. Et puis elle a eu une qualification en équipe de France.
Pour les championnats de France.
Pour les championnats de France. Voilà, c'est ça. Nico, deux dernières petites infos. D'abord un coup de cœur. Hein, Véronique Adam et son association Les Mots en Vélo. Véronique, elle est atteinte de la maladie de Parkinson et en attente d'un rein, et elle a relié Ouistreham à l'île de Ré, 650 km en 18 jours. Elle arrive aujourd'hui sur l'île de Ré avec ses amis du Lions Club de Pontoise. Donc voilà, un bravo, c'est un vrai défi pour elle, ouais, car elle devait transporter 30 kilos d'illicate, c'est nécessaire pour sa dialyse. Hein. Vraiment un grand bravo à Véronique, son équipe de Lions Club, et puis son association Les Mots en Vélo. Et puis un petit coucou à Catherine, qui m'avait présenté Véronique. Hein. Voilà, ah, son action permet de relayer la vision, la réalité et l'espoir à tous les patients atteints d'insuffisance rénale et susceptibles de suivre une thérapie de dialyse, plus particulièrement l'hémodialyse à domicile. Voilà. On peut tous faire du sport, même malgré le handicap et la maladie. Hein, voilà. Dernière chose, les Jeux mondiaux para-athlés auront lieu à Charletti du 8 au 17 juillet. J'en parlais avec notre invité. Hein, dommage, elle y sera pas. Moi, j'y serai pour arbitrer, mais elle y sera pas. Donc, allez-y nombreux. Vous verrez, c'est un super spectacle. En plus, le prix des places est abordable. C'est à partir de 11 euros. Voilà, c'est pas comme certaines places qui défraient un petit peu la chronique. Allez vraiment hein, du 7 au 17 juillet à Charletti. Voilà. Puis alors, j'avais juste donc une petite question pour faire la transition. Est-ce qu'il y a beaucoup d'athlètes non valides sur les compétitions de tri, Oriane?
Il y en a vraiment de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Il y a quand même pas mal d'actions de la Fédé pour ça, donc ça dépend des ligues un petit peu, donc ça dépend des coins en France. Mais vraiment, on se faisait la réflexion un petit peu au national il y a pas longtemps, dans les personnes qui s'occupent de développer le para, qu'on n'arrive plus à suivre toutes les initiatives en France qui se font pour développer le paratriathlon. Donc c'est que vraiment là, ça commence à beaucoup se développer. On peut tout à fait croiser des paratriathlètes sur sur beaucoup d'épreuves en France. Toutes les épreuves sont ouvertes. Et donc, comme on commence de plus en plus à avoir de paratriathlètes.
Voilà, c'est comme sur l'athlète pur, vraiment aussi. Il y a un gros travail qui est fait pour le handisport. Et c'est bien, d'ailleurs, c'est bien.
Ouais, puis que tout, enfin, voilà, qu'ils partagent les mêmes épreuves, que tout le monde soit confronté ensemble. Et c'est vrai que c'est des bons moments à vivre. Ouais. C'est top. Et, on parlait, pour revenir à l'arbitrage avec Oriane, quel a été, en fait, dans ton plus profond souvenir, tes premiers rapports, toi, quand t'étais jeune à l'arbitrage, est-ce que c'était un rapport, justement, positif ou négatif? Comment tu le voyais en tant que jeune athlète, l'arbitrage, en fait?
Mon premier rapport, ça a été aussi avec le sport scolaire, parce que à l'UNSS, du coup, il y a les jeunes officiels, donc ils sont quand même assez bien mis en valeur par les professeurs de PS, donc c'est plutôt une approche positive. Et en fait, j'ai commencé parce que comme beaucoup de jeunes filles, j'ai été beaucoup blessée que je voulais quand même aller sur les épreuves
avec les mercredis
après-midi. Et donc j'ai commencé à officier comme ça, en fait, parce que j'étais blessée. Et du coup, quand j'ai intégré un club fédéral par la suite, ils ont vu que j'étais jeune officielle, et donc ils m'ont proposé d'être arbitre aussi, parce que les clubs ont besoin
d'un quota d'arbitre.
Ça dépend un peu des ligues, mais donc ils m'ont proposé. Puis c'était aussi un club qui essayait de promouvoir le côté arbitrage, tout ce qui est pas que le la compétition en tant qu'athlète. Donc du coup, j'ai commencé en fédéral directement. En fait, j'ai commencé à être arbitre fédéral en même temps que j'ai commencé la compétition en fédéral, au même moment.
Ok. Et ça, c'était à quel âge alors, du coup ?
J'étais au collège.
Très jeune, enfin voilà.
Ouais.
Donc, troisième, 14 ans.
L'arbitrage, on s'y met un petit peu plus tard. Bon,
j'ai commencé l'arbitrage à 14 ans, je crois. Ouais, ouais. 13 ou 14.
Mais pas encore fédéral, parce que moi, dans mon souvenir, je croyais que c'était qu'à partir de 16 ans qu'on pouvait être arbitre.
À 14 ans, en triathlon, en tout cas à l'époque où moi j'ai commencé. Ouais.
C'était déjà possible, donc.
Ouais, c'était déjà possible. Après, on fait d'abord des petites épreuves, hein. On commence pas directement par, on fait surtout les épreuves jeunes au début quand on est jeune.
Ouais, puis le fait d'arbitrer reste, nous fait rester dans le circuit, en fait, hein. Voilà.
Oui, c'est ça. Et puis, on évolue. Et puis aussi, vu que la moyenne d'âge chez les arbitres est pas toujours très jeune, quand il y a des jeunes qui arrivent, on est un peu chouchouté. C'est plus difficile d'en sortir.
Tu dois faire partie d'une des plus jeunes au niveau de l'arbitrage.
Oh, oui.
Ouais, quand même.
Tu peux nous dire quel âge tu as pour nos auditeurs qui te voient
pas.
J'ai 27 ans.
Ouais. Donc ça fait presque plus de 10 ans que tu pratiques, mais tu restes jeune encore.
Ouais.
Quoi. Top.
Ouais.
Et à tes débuts justement, c'est quel type d'épreuve t'as arbitré et comment ça s'est passé pour toi, notamment ta première épreuve en tant qu'arbitre.
Alors mes premières épreuves, c'était des épreuves jeunes organisées par mon club, si je me souviens bien, ou par les clubs voisins, mais des clubs que je connaissais un petit peu puisque j'avais fait de la compète aussi avec. Et j'ai commencé beaucoup par faire des épreuves jeunes en fait, à être officielle
sur des épreuves
jeunes.
Ouais.
C'est un peu plus facile au début pour prendre confiance en soi aussi. Et puis j'ai commencé en étant accompagnée d'un tuteur au début, que j'ai pas vu beaucoup parce que on a une grande ligue quand même, donc c'était un peu compliqué de combiner les calendriers, on va dire. Mais donc j'ai commencé beaucoup par des épreuves jeunes et j'aime toujours beaucoup officier sur des épreuves jeunes, je trouve ça très sympa.
Parce que tu penses que l'âge en fait, pour tes débuts, ça aurait été plus compliqué si ça avait été des adultes et ils respectent moins un jeune arbitre que un arbitre plus expérimenté.
Maintenant avec le recul, je me dis que ça aurait pas été plus compliqué, mais c'était comme ça que c'était toujours proposé, en tout cas à l'époque quand j'ai commencé, ils proposaient toujours aux jeunes arbitres d'arbitrer des épreuves jeunes au début. Et en même temps, c'est aussi très formateur parce qu'on n'a pas une seule épreuve dans la journée, il y en a d'office plusieurs.
Ouais, c'est vrai.
Parce que, donc du coup, ça permet de se former vraiment sur les différents postes, parce que quand on commence avec des postes simples et on n'est pas toujours en arbitrage tous les week-ends, donc pour se former, faut pouvoir répéter un petit peu les postes, sur des épreuves jeunes où on fait 4-5 épreuves dans la journée, c'est plus formateur finalement. Hein.
Ouais. On a les mêmes règlements pour toutes les catégories jeunes. Ou il y a un moment où ça diffère.
Non, il y a les mêmes règlements. Après, c'est notre manière à nous d'officier. Évidemment, on est beaucoup plus dans la prévention avec les jeunes. On les accompagne plutôt. Le but, c'est de leur faire comprendre les règles. C'est les mêmes règles, c'est juste une posture différente de la part des arbitres.
Voilà. On sévit plus, sur les catégories supérieures.
Oui, potentiellement. Mais en tout cas, on est vraiment plus dans la catégorie avec les jeunes.
Plus dans la
prévention.
Mais ce qui est bien d'ailleurs, parce que si on les dégoûte déjà en leur disant,
c'est pas le but. Le but, c'est justement qu'ils prennent plaisir et qu'ils comprennent les règles pour pas qu'ils aient de mauvaises surprises par la suite et que ça rende leur pratique plus fluide aussi par la suite.
Ouais, puis c'est là que ils se rendent compte aussi que les arbitres sont là pour accompagner et pas que sanctionner, et voilà. Et d'ailleurs toi, quel a été tes premiers retours sur tes premiers arbitrages, ça t'a donné envie tout de suite de poursuivre ou t'as eu quelques difficultés sur tes premières épreuves?
J'ai eu un peu de stress sur les premières épreuves et après comme je le disais avant, on est chouchouté un peu en tant que jeune arbitre, donc ça m'a mis en confiance et puis je me suis rendu compte que ça m'apprenait plein de choses sur la confiance en soi aussi, sur réussir même à s'organiser. J'ai commencé aussi très jeune à être arbitre principal au bout d'un an ou deux. J'étais arbitre principal.
Ça, pour expliquer, l'arbitre principal sur une épreuve, c'est celui qui organise tout l'arbitrage et qui comprend justement comment l'épreuve va se dérouler, le timing. Donc il y a pas mal de responsabilités, c'est ça.
C'est complexe.
C'est ça. Puis gérer une équipe, faire un planning. Quand on a 15-16 ans, quand même, c'est quand même une petite responsabilité. Mais du coup, c'est sympa. Vraiment, puis ça fait rencontrer beaucoup de gens et puis ça fait voir l'autre côté du triathlon aussi. C'est ça que j'aimais. J'aimais pouvoir voir les deux, le côté en tant qu'athlète et en tant qu'arbitre. Je trouvais que ça se combinait bien.
Top. Et ben on va faire une nouvelle pause musicale avec un nouveau choix d'Oriane. C'est Ben Mazuet avec le titre Chamallow. Donc pareil, dis-nous un petit peu pourquoi ce morceau-là.
Parce que j'aime beaucoup aussi
les chamallows.
Les chamallows. la chanson française et puis ouais. Parce que celle-là on m'a souvent dit quand je fais du sport que je ressemble un peu à un chamallow des fois, ce qui est pas très
flatteur. C'est valorisant ça.
Tu peux balancer, t'as des noms, non,
parce qu'on peut. Dans ma famille, non, ouais.
Pas sympa quand même, bon.
Et puis voilà, je trouve qu'elle est joyeuse et puis elle correspond pas mal à mes valeurs. J'aime bien cette chanson.
Mais chamallow alors.
C'est parti, on écoute chamallow de Ben Mazuet.
Je suis une guimauve, un sucre, un sirop. Je suis un coulis, le dos blanc d'un croco. Je suis un bonbon qui colle, un goûter après l'école. Je suis un dragibus, un berlingot. Je suis le porte-parole d'Haribo. Je suis un chausson aux pommes, un mi-choco à la gomme. Je suis la porte ouverte qu'on enfonce, un programme de bimbo pour la France. Aimez-vous et rendez-nous l'envie. Je suis une pleureuse de cinoche, un stimorol perdu dans ta poche, un trésor de mioche. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. Ah, il est chou, mais il a rien connu. Il est choyé, faut assez de larmes dans mon vécu pour se noyer. Faut arrêter d'associer docile et gentil. J'entends le sucre se marie bien avec le piquant. J'entame, j'étonne à la tonne. J'ai cœur comme une orgie de loukoum, une cuite à la liqueur. Je m'attelle à trouver beau le monde et beau les gens. Obligeant mon empathie à trouver bon les gens. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. Je suis un chamallow, un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. De la douceur à la caresse, et du coup j'éponge le stress avec mon petit cœur. Abusé, faut pas confondre les imbéciles avec ceux qui savent espérer, avec les gentils, les légers. De la douceur à la caresse, et du coup j'éponge le stress avec mon petit cœur.
VO2 Max, l'émission des sports qui respire.
Vous êtes toujours sur IDFM dans votre émission VO2 Max et nous sommes en studio avec notre invitée Oriane Lacampagne, arbitre internationale de triathlon, qui officiera notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Et donc, on voulait savoir, Oriane, déjà que tu nous rappelles un petit peu quel est le rôle d'un arbitre en triathlon. On va rentrer dans le vif du sujet un petit peu, ouais, voilà.
Le rôle, quand on en discutait aussi avant, pour moi c'est surtout la prévention pour pouvoir faire comprendre aux athlètes quelles sont les règles pour permettre une épreuve qui soit la plus équitable possible
et sécuritaire. On disait la pédagogie, enfin voilà, ouais. Pour expliquer. Ouais.
Oui. Le but c'est que c'est de permettre une course qui se déroule dans des conditions sécuritaires et équitables. Et donc donc on fait beaucoup de prévention et puis après ça nous arrive de sanctionner, mais le but c'est d'avoir le moins possible à sanctionner quand même.
Il y a un petit débriefing au niveau des courses, tu fais un débriefing en tant qu'arbitre où les gens sont censés connaître le règlement.
Alors ça dépend
avant. Un briefing, tu veux dire avant les courses, voilà, pour les
fait,
athlètes.
Ouais, ouais. Fait, ouais.
Pour les athlètes, alors ça dépend quelles épreuves, ça dépend avant et après le Covid aussi, mais on essaye en général de faire des briefings pour les athlètes soit juste avant la course au micro, quand ils sont dans l'air de transition, en train de se préparer, ou au moment du départ. On essaie surtout de diffuser les informations avant le jour de l'épreuve. Ça, c'est en régional, et puis après en national, ça se passe un peu différemment, mais oui, on essaie d'informer les athlètes. Il faut d'office que les athlètes soient informés avant, des règles générales, et puis des fois il y a des règles un peu spécifiques en fonction de chaque épreuve.
De chaque événement, oui.
Ouais. Et après, notre rôle en tant qu'arbitre aussi, ben, on arbitre en équipe toujours un triathlon, parce qu'on peut pas tout seul, c'est
tout
pas
seul,
possible. Et donc du coup, c'est aussi, on fait un briefing entre arbitres avant, on fait un débriefing après aussi. Donc le but, c'est aussi de la planification, c'est d'être sûr qu'il y a un arbitre à chaque endroit au bon moment, de pouvoir se relayer, de pouvoir se faire passer les informations. Voilà,
c'est ouais, aussi, ouais, que ça, pas mal de une belle communication entre l'équipe pour que tout se passe bien.
C'est quoi un bon arbitre de triathlon?
Un bon arbitre de triathlon, c'est quelqu'un qui communique bien avec les athlètes. C'est quelqu'un qui est réactif et adaptable parce qu'on change beaucoup de postes. Du coup, il faut qu'on soit capable de faire tous les postes sur une épreuve. Donc réactif, adaptable. Et puis voilà,
sympa.
Je pense que c'est ça. Sympa.
Quelqu'un de
oui,
sympa,
c'est
cool,
oui, quelqu'un de sympa. Et quelqu'un de il faut quand même être sûr de soi dans ses décisions, parce que c'est des décisions à prendre à l'instant
T.
Oui, donc
qui
faut quand
revienne vers toi en tant que juge arbitre. Et puis voilà, c'est toi qui prends la décision finale en fait.
En national, c'est comme ça que ça fonctionne.
Hein.
En régional, ça peut être un peu différent. Il faut quand même que même les arbitres, donc on les appelle les arbitres assesseurs, les autres membres de l'équipe d'arbitres, il faut quand même qu'ils soient quand même autonomes dans leur prise de décision pour certaines décisions. Donc voilà.
Bah ouais, il y a cette autonomie là, les arbitres assesseurs, comme tu disais. Après, moi, ce que je voulais savoir, enfin, c'est est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir même quand t'es assesseur, et est-ce qu'il y a besoin d'avoir été triathlète soi-même pour être arbitre?
Il n'y a pas forcément besoin. Est-ce qu'il y a, des très bons arbitres qui sont, par exemple, des parents triathlètes? Il n'y a pas forcément besoin. C'est bien, ça aide d'avoir été athlète, je trouve. Enfin, moi,
j'ai souvent constaté ça, et c'est vrai que c'est un bon complément. Et, et quand l'arbitre arrive à se mettre à la place de l'athlète qu'il a en face de lui, et est-ce qu'il y a besoin d'avoir été?
Ben, il n'y a pas forcément, c'est pas obligatoire, mais ça aide beaucoup. Mine de rien, les parents de triathlètes, par exemple, ils sont quand même bien dans la course parce que...
Oui, des fois, ils vivent trop bien le truc.
Voilà, donc ils connaissent bien. Ils sont pas forcément athlètes, mais ils connaissent bien. Et on a beaucoup d'arbitres qui sont des anciens triathlètes. Anciens, il y a plus ou moins longtemps. Mais c'est rare de trouver des arbitres qui n'ont pas du tout pratiqué le triathlon, quand même.
Très bien.
Oui, on va parler un petit peu de la réglementation, parce que je pense qu'elle doit évoluer souvent. Un petit peu comme un athlète pur, hein. Il y a toujours des formations.
Des petites choses qui évoluent.
Voilà, On a des pavés épais comme ça, mais des fois il y a quelques alinéas qui changent. À chaque fois, regardez un petit peu le, Et elles sont nombreuses en tri?
Il y a des petits changements tous les ans. Après, ce qui est parfois compliqué, c'est que il n'y a pas la même réglementation en régional qu'en national et qu'en international. Donc, quand on fait les trois, il faut être aux aguets. C'est dû parce que on essaie de s'inspirer un maximum en fait de la règlement internationale pour avoir quelque chose de cohérent, une pratique cohérente, mais clairement la réglementation internationale elle est pas applicable sur du développement, sur du loisir, et puis même en pratico-pratique, si on regarde une épreuve internationale pour arbitrer un triathlon distance S ou M, on est une équipe de entre 20 et 30 officiels. En régional, pour une épreuve S, on est 6. Donc clairement, de manière pratique, c'est pas applicable. Et puis même en termes d'organisation, c'est pas les mêmes organisations. Et puis ça dépend de la politique de la Fédé aussi. Ouais. Politique de développement du triathlon, on simplifie en régional.
Et c'est ça. Et t'arrives à connaître en fait, ces réglementations, que ce soit au niveau régional, national ou international, et à connaître toute la réglementation par cœur.
Alors par cœur, j'y arrivais quand je faisais que le régional. Là, c'est plus compliqué. Mais par contre, j'utilise beaucoup les outils numériques, donc j'ai toujours accès aux trois réglementations. Mais je sais où trouver les informations. En fait, l'important, c'est de savoir où trouver les informations rapidement. Puis de toute manière, on les lit en entier plusieurs fois par an. On a des formations tous les ans sur français, tous les niveaux.
Bilingue, français, anglais.
Alors, ben, en fait, on a formation en régional. On a une formation d'arbitre assesseur tous les ans, pour tous les arbitres assesseurs. Formation d'arbitre principal pour ceux qui sont arbitres principaux, donc en plus de la formation arbitre assesseur, tous les ans aussi. Mmh. En national, on a un colloque national tous les ans, puis on se forme, on se voit sur les épreuves nationales, donc on se forme aussi entre nous, mais on a un colloque de deux jours tous les ans aussi. Et en international, on a des formations tous les quatre ans. Bah, ça a un peu changé depuis le Covid, mais il y a des formations plus longues et on change de niveau et on doit revalider en fait nos niveaux tous les deux ans, je crois. Quelque chose comme ça.
Et
donc
là,
en fait, il y avait beaucoup de formations. Et là, en anglais. En fait, en international, il n'y a qu'en international ou c'est en anglais. Les autres niveaux, c'est en français. C'est
Et puis c'est bien le numérique, hein. C'est vite d'avoir un pavé à chaque fois quand tu viens sur une arbitrée, sur une épreuve. Hein.
Exactement.
Comment ça se passe.
Bon, et j'ai voulu faire un petit jeu, j'ai cherché une règle pour voir si on arrivait à piéger un arbitre international.
Attention, la question est sévère.
Non, mais c'était pour s'amuser, parce que c'est vrai qu'on se dit, en fait, en triathlon, avec voilà trois disciplines, ça doit être dingue, en fait, de connaître toutes les règles. Et voilà, bon, il y a des règles de base, mais allez, on s'amuse à jouer. Lors un triathlon, en fait, sur l'épreuve vélo, avec une circulation ouverte aux autres véhicules, il y a une histoire, en fait, enfin il y a une règle sur la distance que... Ah non, Auriane, elle est en train de tricher, elle est en train de prendre son téléphone. En fait, avec drafting autorisé ou drafting interdit, donc ça c'est quand le cycliste peut suivre d'autres, mais il y a une interdiction, en fait, de suivre d'autres véhicules, que ce soit la moto ou une voiture, pardon. Voilà. Hop, elle est en train de toucher son téléphone. Quelle est la distance, en fait, qui doit y avoir entre un cycliste et la moto qui la précède?
La moto, c'est 15 mètres.
Ah ouais, elle est forte. Voilà, ouais.
Mais je soupçonne que Nico a dû se faire disqualifier, hein, sur un truc comme ça, parce que...
En régional, voilà. Et 35 mètres derrière une voiture.
Voilà, on n'a pas le droit de suivre. Il faut être à plus de 15 mètres quand on est cycliste derrière une moto. Mm-hmm. Enfin, moi, je trouvais ça particulier et complexe, en fait. Voilà. Parce que moi, j'ai fait la formation arbitre assesseur, c'est tout. Je me disais, se rappeler de toutes ces règles-là tout le temps, c'est pas simple. Mais
c'est aussi pour ça que je triche, parce que ça fait partie des choses qui ont changé récemment, ces dernières années, en régional. Et qui sont différentes régionales, nationales, internationales. Donc ça fait partie des trucs que voilà, je préfère toujours vérifier, même quand j'ai la réponse, parce que c'est quand on, enfin, il faut pas donner une mauvaise info, parce que l'idée c'est pas d'embrouiller les athlètes, donc il faut donner des informations dont on est sûr. Quoi.
Donc avant chaque épreuve, une petite révision des règles toujours. Classiques, pour être sûr de soi.
Les arbitres. Et les fautes, quelles sont les fautes qui sont le plus commises par les triathlètes? Une faute basique, enfin, quoi, là, qu'on retrouve qui est récurrente sur un, que ce soit en natation, au vélo ou en course à pied, c'est peut-être un peu moins
difficile. Les fautes, c'est beaucoup dans l'air de transition, en fait. Et, c'est beaucoup des fautes, ce qu'on appelle des fautes de casque ou de jugulaire. C'est les athlètes qui, en triathlon, on est obligé d'avoir fermé, clipsé la jugulaire de son casque avant d'attraper son vélo. Et quand on revient du coup du vélo, on est obligé d'avoir posé son vélo, accroché son vélo avant de détacher la jugulaire du casque. Et ça, c'est une faute qui est faite souvent, on la rappelle souvent, mais c'est vrai que dans le mouvement, parce qu'on a envie d'aller vite, on a tendance, on descend du vélo, on commence à courir à côté du vélo, hop, avec l'autre main, on décroche le casque. Et ça, c'est pas autorisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même en national.
Et c'est pénalisant.
Et c'est pénalisant, donc en régional, d'un carton jaune. Et en national, ça donne, parce qu'on fonctionne pas pareil, mais une pénalité, donc il faut s'arrêter dans une penalty box à la fin de la course
temps,
à pied.
Pénalité de
temps. Mais donc ça, on voit souvent. Et puis après, des fautes de ligne montée-descente. Donc pareil, dans l'aire de transition, quand on part en vélo, on a le droit de monter sur son vélo après une ligne qu'on appelle la ligne de montée vélo. Et des fois, les athlètes montent un peu avant. Et pareil, quand on revient du vélo, il y a une ligne avant laquelle il faut qu'on soit descendu du vélo pour pas rentrer dans l'aire de transition sur son vélo. Et ça aussi, ça, on voit quand même pas mal ces fautes-là.
C'est les fautes classiques.
Ça crée pas trop de conflits, parce que bon, entre le... Non?
Non, pas trop. En général, les athlètes comprennent. Mais voilà, en régional, c'est pareil. On fait beaucoup, beaucoup de prévention. On met pas un carton. Chez les jeunes, on va pas mettre des cartons. On va leur dire.
Par rapport à un autre athlète, il y en a qui fait ça, et l'autre le fait autrement, bien sûr.
Pour les fautes de casque, on est plus sévère, parce que c'est quand même une question
sécurité. De sécurité. Sécurité, bien sûr.
Voilà.
Très bien, Auriane. Eh ben, impeccable. On va en faire une nouvelle pause musicale avec un nouveau titre que tu nous as choisi. Alors là, voilà, c'est un petit peu plus original encore. On va dire, c'est The Dave Brubeck Quartet que tu as choisi. Pourquoi?
Ben, parce que c'est quelque chose que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, parce que mon papa aimait ça, donc on avait ça comme CD à la maison. Mm-hmm. Et aussi, ben, c'est quelque chose que j'écoute encore souvent, parce qu'être arbitre national et international de triathlon, c'est beaucoup d'administratif, c'est beaucoup de rapports à faire, et donc c'est ce genre de choses que j'écoute
pour quand te détendre et te poser.
Exactement.
Voilà. Et ben, on écoute le Dave Brubeck Quartet. Alors.
VO2 Max, l'émission des sports qui respire.
Vous êtes sur IDFM dans votre émission VO2 Max et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Auréane Lacampagne qui est arbitre international de triathlon et paratriathlon. Nous allons continuer à échanger avec Auréane, parler d'arbitrage, mais c'est le moment d'abord de l'agenda des prochaines courses à venir dans la région, qui est bah, d'habitude fait par Mathilde, mais là tant pis, c'est moi qui m'y colle. Voilà, donc bah, pour les prochains événements, on a notamment le samedi 10 juin un trail en fait, alors qui s'appelle 24 heures en enfer. C'est un trail à côté de Marine, à Brignancourt. Donc il y a un 24 heures à faire sur une boucle de 6 km.
Ça, c'est très costaud. Hein.
C'est assez violent. Ouais. Ils ont adapté aussi. Il y a d'autres formats. Il y a un format sur 12 heures, sur 8 heures, sur 4 heures et sur 2 heures. Tout ça avec des départs sur le samedi 10 juin. Donc,
allez-y nombreux.
N'hésitez pas.
Allez-y nombreux.
Voilà. Pour revenir sur le triathlon, cher à Oriane, il y a le 18 juin, il y a un triathlon jeune et adulte à Bobigny. Je crois que c'est une épreuve assez récente. Je me demande si c'est pas la première édition, mais c'est un cross triathlon pour les adultes, donc un format XS. Donc c'est 250 mètres de natation, 5 km vélo et 2,7 km de course à pied. Il y a un format S également. Et puis pour les jeunes, c'est pour les catégories de poussins à Benjamin, c'est un aquathlon. Le 18 juin, donc le dimanche, on a également le semi marathon de la Croix Verte. Qui est à Montsou, une épreuve traditionnelle.
Semi et un 10. Hein.
Ouais, exactement. Il y a un 11 km, j'ai vu. C'était...
Oui, c'est le de boucle. Voilà, ça. Fait de boucle.
Voilà. Le 24 et le 25 juin, il y a le triathlon de Paris. Donc, voilà, une des épreuves phares d'Île-de-France avec sur deux jours. Donc, le samedi, un S. Ils ont aussi inauguré un duathlon dans S. Alors, je crois que ça fait plusieurs éditions que ça existe, mais voilà, il y a donc triathlon et duathlon.
Tu y seras? Non, pas sur celui-là? Non.
Non. Désolé. Et le dimanche c'est un format M, format olympique et avec en drafting, c'est assez rare en fait en Île-de-France qu'il y ait le drafting autorisé pour les adultes. Donc voilà, c'est une belle occasion de pratiquer. Et puis bon là, un petit peu plus tard, passé l'été, il y aura le triathlon le 10 septembre. En fait, c'est organisé par la Ligue Île-de-France de triathlon à Bois-le-Roi dans le sud de l'Île-de-France avec un format L et un format M. Donc ça, le 10 septembre. Et puis le 24 septembre, il y a les inscriptions qui viennent d'ouvrir, organisées par le VMT, le Comité départemental de triathlon. Là, il y a le ex-triathlon Event, c'est un swimrun S et un swimrun M. Et puis il y a également un cross-triathlon S. Donc voilà, ça fait quelques courses à venir et à faire, évidemment. Et donc on revient un petit peu à la discussion avec Oriane. Voilà, peux-tu nous expliquer un petit peu comment s'est fait ton évolution au sein de l'arbitrage, parce qu'on rappelle que tu es arbitre international de triathlon, t'es jeune, t'as 27 ans, mais t'es arbitre international de triathlon qui officiera au JO. Donc comment ça s'est fait cette évolution pour toi jusqu'au plus haut niveau maintenant?
J'ai commencé avec le sport scolaire et puis après en fédéral, j'ai été un an ou deux arbitre assesseur, donc dans l'équipe d'arbitre, et puis je suis passée arbitre principal, donc c'est ceux qui gèrent un peu l'équipe d'arbitre, voilà. C'est un peu le chef de l'équipe d'arbitre,
c'est ça,
on va dire, sur une épreuve. J'ai commencé le national à la fin du lycée. Directement, je pense, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai commencé l'arbitrage en tant que jeune arbitre national. À l'époque, en fait, on avait un cursus un petit peu raccourci pour les jeunes, justement pour leur permettre de rester on va dire.
C'était facile à gérer avec tes études secondaires?
Avec les études supérieures, ouais. Ça a été en termes d'agenda, c'est à partir de ce moment-là que ça s'est compliqué, ouais. Surtout que j'ai fait mes études supérieures à l'étranger, j'ai continué d'officier en France. Donc du coup, ça faisait beaucoup de voyages, mais c'est très sympa, c'est très sympa aussi. Voilà, et puis j'ai fait ma première épreuve internationale en 2018.
D'accord,
et
donc
depuis,
5 ans.
Depuis, j'ai continué l'international aussi. Donc en fait, chaque année, je fais plus beaucoup de régional, malheureusement, mais parce que il y a pas assez de week-ends année.
Voilà, ouais.
Parce que je le disais tout à l'heure, il y a les week-ends de formation déjà. Du coup, dans les trois niveaux, sachant qu'il y a deux journées de formation en régional, je fais à peu près. En général, trois épreuves régionales dans l'année, donc c'est pas énorme, ou trois week-ends, on va dire, parce que des fois il y a deux jours. Et en national, j'en fais entre 3 et 6 par an. En international, entre 3 et 6 aussi. Tous les ans, donc en fait à chaque fois ça prend un week-end,
la moitié de tes week-ends sont pris, facile quoi.
Un peu plus, puis après je suis engagée dans d'autres choses aussi, notamment dans le développement du paratriathlon, je fais des classifications, enfin je fais beaucoup de choses.
Et puis il y a la vie professionnelle.
Accessoirement, il y a la vie professionnelle quand
et personnelle quand même aussi.
Et personnelle.
Je vais pas parler du privé, mais bon.
En dernier plan,
faut gérer tout ça.
Ouais, ça rentre pas. C'est vrai qu'il faut prendre en national et en international à chaque épreuve, faut prendre des jours de congé parce que il faut faire des trajets et puis donc ça prend beaucoup.
Et ça, on y reviendra justement aussi pour parler de paratriathlon.
La plus belle épreuve que tu aies arbitrée pour l'instant ?
Oh, c'est dur. Hein. Ouais. Cette année, là, il y a quelques semaines, j'ai été officier à Albi sur une demi-finale de championnat de France jeune. Et j'ai, malgré la pluie, j'ai apprécié. Alors que c'est un triathlon urbain, c'est pas forcément ce que je trouve le plus sympa toujours. Mais là, j'ai trouvé que l'organisation était super. Voilà, bah, moi qui ai pas beaucoup de temps libre, pouvoir faire un officier dans un triathlon qui se déroule en centre-ville, juste au pied de la, avec l'aire de transition, juste au pied de la cathédrale, c'était sympa.
C'était le cadre qui était,
le cadre était chouette, ouais. L'organisation était sympa. Et puis, c'est une demi-finale de France Jeune. C'est des,
il y a des enjeux.
C'est des épreuves que j'aime bien. Il y a des enjeux. On fait beaucoup de pédagogie, encore plus sur ces épreuves, puisque leur but à ces athlètes, c'est de se qualifier pour le championnat de France. Donc, on n'a pas envie qu'ils arrivent sans connaître les règles non plus. Et c'est très très dense parce qu'il y a beaucoup d'épreuves en une journée, donc on fait du sport aussi un peu en tant qu'arbitre. Quoi.
On a parlé comme ça, il y a du stress pour les arbitres, oui, je pense.
Il y a du stress surtout sur ces épreuves-là, du coup de championnat de France jeune ou demi-finale. Il y a du stress de timing parce que les épreuves, ben quand il y a pas d'espace entre les départs, quand on donne un départ alors que le dernier de la course d'avant est pas encore arrivé,
oui, oui.
Y a du stress en termes de timing, vraiment. Et on court pour de vrai.
Voilà. Non, c'est top. Et on le disait, tu vas arbitrer l'épreuve de triathlon et de paratriathlon au JO 2024. Donc, c'est une belle consécration, j'imagine, pour toi.
Oui, bah ça va être une expérience extraordinaire qu'on n'a pas beaucoup la chance de vivre. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir y aller.
Ça a été quoi ta réaction quand t'as appris ça? Tu t'y attendais déjà?
Oui, je m'y attendais parce que les Français, ça fait longtemps, donc les arbitres nationaux français, ça fait longtemps qu'on sait qu'on aura un quota plus important.
Parce que les JO ont lieu à Paris.
En France, c'est pas le cas dans toutes les fédérations, hein, c'est pas le cas dans tous les sports, mais pour le triathlon, quand les Jeux Olympiques se déroulent dans son pays, on a un quota plus important.
Ah, je savais pas que dans les autres sports, c'est selon les fédérations, c'est pas comme ça.
Parce que c'est géré par les fédérations internationales, donc c'est en fonction de leur règlement. Donc ça fait longtemps que je m'y attendais. La surprise, ça a été d'être sélectionnée, parce qu'en fait, il y a un processus de sélection aussi, d'être sélectionnée pour les deux, donc pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques. Je suis super.
Donc là, en tant que juge principal?
Non.
Non.
En tant que en international, on n'est pas arbitre, on est technical officiel parce qu'on fait pas que des tâches d'arbitrage, on fait aussi des tâches techniques. Moi je serai ce qu'ils appellent chief. Donc en international, comme je disais tout à l'heure, c'est des grosses équipes qui officient d'une trentaine d'arbitres, et du coup il y a des chefs pour différentes parties, donc des chefs chef vélo, chef aire de transition, et puis des postes très très spécifiques, et donc je sais que je serai chief, j'aurai des postes de chief sur les deux, mais ils seront décidés
sur les deux épreuves,
sur les Jeux Olympiques et sur les Jeux Paralympiques. Et
mais tu sais pas encore quel chief tu vas être, quoi, si c'est sur le vélo ou sur la natation.
Je le sais pour le moment, je sais que je serai
Mais t'as pas le droit de le dire, c'est
si,
ça?
Si, je peux le dire, mais c'est difficile à expliquer. Je serai chief VCC, donc Venue Control Center pour les Jeux Paralympiques.
Donc c'est ceux qui arrivent, ça c'est pour le check du vélo, non?
Non, c'est responsable c'est vraiment compliqué. Ouais. En fait, on doit relater tout ce qui se dit dans les radios, peu de communication entre les officiels et avec les bénévoles pour pouvoir essayer. Et on doit tout réécrire. Donc à telle heure, telle personne a fait un appel pour telle chose.
Ça, c'est une retranscription.
C'est une retranscription.
Un débriefing.
Et puis après, en fait, on est toutes les preuves dans une salle avec le responsable des bénévoles aussi, le responsable de l'organisation, responsable des secours. Et on écoute tout ce qui se passe et on essaye d'anticiper les problèmes, par exemple. S'il y a un accident, il faut qu'on soit capable tout de suite de trouver les numéros des athlètes qui ont été accidentés, ce genre de choses. Donc c'est très administratif, c'est ce que je dis. Donc c'est pas du tout une tâche d'arbitrage, on va dire. Voilà. Et sur les Jeux Olympiques, je serai chief aid station, donc sur les ravitaillements, responsable des ravitaillements. Mais donc ça, nous, on a le test event, on a un test event nous cet été qui
donc
est obligatoire.
C'est l'épreuve qui va être faite au JO 2024 qui se fait là.
Ouais, exactement.
Là, c'est fin août à Paris. Là.
Voilà. Et donc on aura nos postes définitifs après cette épreuve-là, en fait.
D'accord.
Voilà.
Bon, Ah bah super. On a hâte de voir ça. On viendra te surveiller.
Bien sûr. Il y a pire. Hein.
Ouais. Ah, c'est sympa. Non mais le parcours va être magnifique. Ouais. Enfin c'est vrai que ça va être un super moment à vivre. À la fois pour toi, on va suer, mais aussi pour les spectateurs. Enfin ça va être un beau moment. On va faire une dernière pause musicale. Et le dernier choix que tu nous as proposé, Oriane, c'est Bobby McFerrin. Voilà, avec un morceau que bon, tout le monde connaît à peu près, hein, le Don't Worry Be Happy, mais vas-y, dis-nous pourquoi tu as voulu le choisir.
Ben parce que c'est une chanson qui met de bonne humeur et que j'ai eu tendance à mettre beaucoup quand j'étais en internat par exemple à fond le matin pour essayer de redonner le sourire à tout le monde voilà avant de commencer la journée. C'est
un bon moyen pour apaiser tout ça et puis se concentrer sur l'essentiel.
Exactement.
Voilà. Et ben on écoute Bobby McFerrin.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
VO2 Max,
l'émission des sports qui respirent.
Vous êtes toujours sur IDFM dans votre émission VO2 Max et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Oriane Lacampagne, qui est d'ailleurs licencié non pas au Versailles Triathlon, aux expatriés, c'est ça?
Exactement.
Voilà. Et donc, Oriane Lacampagne, qui est au-delà d'être licenciée en triathlon, elle est arbitre internationale de triathlon et officiera notamment aux Jeux Olympiques en 2024, comme on l'évoquait avec elle, et également aux Jeux Paralympiques, l'occasion voilà d'en parler un petit peu plus.
Voilà, on va parler aussi en e-sport, parce que c'est quand même une partie très 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 importante. Hein. Compliqué d'arbitrer des triathlètes élites sur une épreuve internationale?
Élite en paratrie?
Oui, en paratrie, bien sûr. Quand je dis compliqué, voilà, les règles changent malgré tout.
Compliqué, c'est comme en athlète, ouais. Parce qu'en fait, c'est toute la réglementation normale qui en international est déjà bien lourde, plus beaucoup de spécificités dépendant des catégories de
handicap. Oui, bien sûr, ils sont classés comme en athlétisme, hein, je pense.
Ils sont classés un peu sur un système similaire qu'en athlétisme, mais les catégories sont plus larges.
Ouais.
Mais nous, ça nous fait des règles spécifiques concernant la vérification du matériel, notamment. Vérifier les prothèses, on vérifie pas grand chose à part qu'elles soient numérotées, mais
les fauteuils,
certaines mesures, on vérifie roues, les tandems,
tout ça, voilà, ouais, comment,
ouais. Exactement, les liens, la taille des liens pour les athlètes qui ont un handicap visuel et qui courent avec un guide, ce genre de choses, et puis il y a quelques règles spécifiques pendant la course aussi à respecter. Donc oui, compliqué. On dit souvent qu'un officiel, un arbitre qui est capable d'arbitrer du paratriathlon, en général, il s'en sort pas mal pour le reste aussi.
Il est costaud, ouais.
Les valides et les non-valides courent ensemble ? Comment ça se passe ?
En
c'est vraiment des compétitions vraiment spécifiques
En international, ils courent pas en même temps. Mais souvent, enfin, il y a des coupes des coupes du monde, des coupes d'Europe de paratriathlon où ils sont tout seuls, mais il y a beaucoup d'événements où on retrouve les deux. C'est des courses séparées, mais sur un même lieu. C'est-à-dire
d'accord.
Ouais, voilà, dans une même ville, il va y avoir un jour, il y aura les élites, par exemple, et le lendemain, il y aura les paras.
D'accord.
Ou alors le matin, il y aura les paras, et puis après élites, et puis ou les juniors le lendemain, voilà.
Ouais, ils font les mêmes parcours, mais pas au même
les
moment.
Les mêmes parcours, bah pas toujours les mêmes parcours parce qu'ils courent pas sur les mêmes distances, mais
d'accord.
Voilà, parce qu'en paratriathlon international, ils courent sur distance S.
Ok.
Il n'y a voilà. qu'une seule distance.
Il n'y a qu'une seule distance. Oui. Après, il y a d'autres épreuves qui sont ouvertes aussi. Par exemple, ben, j'étais à Ibiza il n'y a pas très longtemps, mais ils peuvent courir sur le long s'ils veulent courir sur le long. Voilà. Mais l'épreuve, étant donné que l'épreuve paralympique, c'est distance S, ben, c'est l'épreuve de prédilection.
Et on voulait savoir comment est-ce que tu t'es spécialisée justement sur le paratriathlon ?
Depuis que je suis très jeune, je suis intéressée sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport. Donc, c'est pareil, tout au long de mon processus de développement, on va dire en tant qu'arbitre ou même au sein de la Fédé, j'ai essayé de développer un petit peu plus d'aider au développement du paratriathlon. Puis dans mon parcours professionnel,
ouais.
Voilà, je travaille dans le monde du handicap. Quoi. Je suis ergothérapeute, auprès de personnes en situation de handicap. J'aime ça, je trouve ça super intéressant, je trouve que ça rajoute du challenge et ça permet aussi de développer plein de compétences. Et puis c'est un petit monde, déjà que le triathlon c'est un petit monde, mais alors le paratriathlon c'est encore plus un petit monde, donc c'est un peu famille, donc.
Et il y a des évolutions positives. Enfin, concrètement, en plus, tu vois des choses qui bougent à ton niveau.
Ça bouge vite. Quand on y réfléchit, quand même, ça fait pas longtemps et ça évolue quand même assez vite. Des fois, moi, je trouve ça trop lent. Mais en fait, quand on prend du recul, oui, ça va vite.
Ah, super vite.
Ça va vite.
Top. Et quel est ton regard justement maintenant sur ces facilités en fait qu'ont les paratriathlètes à pouvoir pratiquer? Enfin voilà, est-ce que tu trouves que c'est ils peuvent facilement pratiquer parce que là on parlait du haut niveau hein, mais je parle au niveau local. Enfin voilà, quelqu'un qui a un handicap quel qu'il soit, est-ce qu'il peut pratiquer facilement en fait autour de chez lui le triathlon, enfin le paratriathlon?
Il y a des petites compétitions régionales ou vraiment dans des petites structures?
Ça dépend un peu du
après,
lieu,
c'est difficile à mettre en
ça
place
dépend
aussi,
du lieu, ça non. dépend du handicap, voilà, parce ouais. que il y a beaucoup, il faut vraiment se sortir ça de la tête. Il y a beaucoup d'athlètes, de paratriathlètes qui ont besoin d'aucune adaptation spécifique. Donc en fait, ils vont participer à une épreuve comme vous et moi, quoi. Il y a besoin de rien du tout. C'est sûr que les athlètes qui ont besoin d'aménagements spécifiques, notamment on pense aux athlètes qui sont en fauteuil. Là, il y a besoin de gros aménagements. Toutes les épreuves sont pas facilement accessibles. Tous les organisateurs ou tous les clubs sont pas forcément ouverts à l'accueil. Ça, il y a encore du progrès à faire. Alors, c'est sûr que moi, par exemple, j'ai un peu un regard déformé puisque je suis vraiment dans ce monde-là, donc je connais tout ce qui fonctionne. Mais il y a des...
Et tout ce qui fonctionne pas,
j'en entends parler, mais je le côtoie moins. Mais j'en entends parler. Il y a encore des clubs et des organisations qui bloquent, à qui ça fait peur en fait, c'est surtout ça, hein, ça fait peur.
C'est peut-être ça justement, enfin est-ce qu'ils ont pas besoin d'être accompagnés plus qu'autre chose et que c'est pas une volonté pour eux de bloquer l'accès au monde du handicap à ces épreuves-là, mais peut-être que juste
c'est exactement ça, ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin d'être accompagnés, donc on essaie de faire notre maximum, mais bon voilà, par exemple moi je suis bénévole, donc j'ai
oui, il faut des fiches formées pour ça parce que la formation en e-sport est pas simple du tout, hein. Il y a c'est très très épais, hein, la réglementation. Alors qu'elle soit en athlée ou en tri.
Après, c'est peut-être un petit peu différent parce que en triathlon, la partie paratriathlon, elle est gérée par la Fédération française de triathlon, alors qu'en athlétisme, la partie handi et la partie valide, elles sont pas gérées par les mêmes fédés.
Ouais,
donc c'est un peu différent.
Ouais,
mais toujours est-il, c'est beaucoup de travail, beaucoup de spécificités. Ouais. Mais il faut pas avoir peur parce qu'il faut se dire vraiment que la plupart du temps c'est facile de
le
pouvoir accueillir des
paratriathlètes. Le sport est ouvert à tout le monde, voilà,
exactement.
Tout le monde peut faire du sport, tout le monde.
Super. Eh ben, merci Auréane. On va clôturer cette émission. Juste, allez, on peut terminer comme ça. En fait, se dire maintenant que quand les JO 2024 seront passés, c'est quoi ton objectif encore à venir derrière? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Enfin, il n'y aura pas au-dessus, quoi.
Peut-être retrouver un petit équilibre vie perso, ouais, vie.
Un petit peu de calme et de sérénité,
un
voilà.
Un petit peu de vie perso, et puis je vais essayer de m'impliquer un peu plus dans le paratriathlon, peut-être dans la classification un peu plus, donc classification pour le paratriathlon ou d'autres sports.
Voilà. Bah, on a pu reviendra nous voir à IDFM.
Voilà, exactement. Pour nous expliquer tout ça,
voilà,
ça sera un peu plus tranquille.
Ouais.
Voilà. Bon, déjà,
ouais.
on va remercier Auréane d'être venue voilà en studio, parce que voilà, elle venait de pas juste à côté, elle est pas du Val d'Oise, donc merci Auréane d'avoir pris le temps de venir jusqu'au studio. Merci pour cette émission, bien sûr, à IDFM et notamment à Francky qui nous soutient toujours à la technique, hein, même s'il est un peu plus loin.
Mais le technicien principal était Nico aujourd'hui, hein. Bravo Nico.
Merci et merci à Christophe. Et puis rendez-vous pour la prochaine émission le dimanche 2 juillet à midi pour une heure de émission. À très vite.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
VO2 Max. VO2 Max.
VO2 Max, l'émission des sports qui respirent.